Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le parquet de Paris ouvre une vaste enquête sur la gestion de la crise sanitaire avec deux chefs de possibles mises en examen, homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. L'initiative de la justice divise la classe politique. Dans ce journal, les explications de Margot Delpierre et le reportage de Rosalie Lafarge à l'Assemblée. Les obsèques de George Floyd débutent en ce moment à Houston, un événement planétaire pour rendre hommage à ce père de famille noire devenu le symbole des victimes des violences policières racistes. Nous retrouverons à Houston notre envoyé spécial Grégory Phillips. Dans l'actualité économique, le gouvernement débloque 15 milliards d'euros pour soutenir la filière aéronautique française. Il s'agit notamment de développer l'avion vert. Nous écouterons le PDG de Thales, Patrice Ken. Comment définir la richesse en France? L'Observatoire des inégalités tente de répondre à la question dans son dernier rapport. Nous verrons cela avec Anne-Laure Choix. Il y aura bien des suites judiciaires à la polémique sur la gestion de la crise de la Covid-19 en France. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une vaste enquête préliminaire. Enquête qui constitue une première réponse de la justice à une quarantaine de plaintes reçues par le parquet de Paris. Elles émanent de proches de victimes, d'organisations professionnelles ou de pétitions. Selon le procureur de la République de Paris, c'est la première fois que des plaintes sont déposées en pleine crise sanitaire. Les explications de Margot Delpierre.
L'enquête préliminaire va engendrer un travail considérable dans une situation historique. Le procureur de Paris s'y attend. Elle regroupe en fait 14 procédures, soit une quarantaine de plaintes, et doit permettre de dire s'il y a eu des infractions pénales pendant la gestion de l'épidémie sur les mesures de protection au travail ou la mise à disposition de masques et de tests. Cette enquête nationale, confiée à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, vise les chefs d'homicides involontaires et de mise en danger de la vie d'autrui, entre autres. Jusqu'à 9 enquêteurs réunis dans une cellule dédiée vont se pencher sur ces plaintes. Parfois, elles ciblent des responsables de l'administration, comme Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qu'on a beaucoup vu et entendu ces derniers mois, mais aussi Santé publique France, l'administration pénitentiaire et le ministère du Travail, par exemple. En revanche, l'enquête ne concerne pas les EHPAD, qui font l'objet d'investigations locales. Elle ne concerne pas non plus le chef de l'État, irresponsable pénalement. L'hypothétique responsabilité des membres de son gouvernement relève de la Cour de justice de la République. Elle a reçu à ce jour 80 plaintes.
Margot Delpierre, merci. Voilà donc la justice qui pourrait bien demander des comptes au gouvernement pour sa gestion de la crise sanitaire. Tout dépendra bien sûr de l'issue de l'enquête préliminaire. Mais d'ores et déjà, la menace d'éventuels procès divise l'Assemblée. Le reportage de Rosalie Lafarge au Palais Bourbon.
Il y a tellement à faire que mieux vaut s'y mettre tout de suite. C'est un peu ce que se dit le député de la France Insoumise, Éric Coquerel.
Je pense qu'il y a eu véritablement des erreurs, à certains moments même des mensonges sur la préparation de cette crise et ça ne me choque pas que ça aille devant le pénal. Je trouve ça plutôt positif.
La majorité aussi y trouve du positif. Ces plaintes contre X visent pourtant parfois nommément des responsables de l'administration, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon ou encore le ministère du Travail. Mais le député En Marche, Florent Boudier, joue la sérénité.
C'est la démonstration que, contrairement à ce que beaucoup de responsables politiques français ont pu dire pendant la crise sanitaire, que malgré l'état d'urgence, il y a la totale application de l'état de droit.
Mais certains députés s'inquiètent quand même un peu. Le Rassemblement national et son porte-parole, Sébastien Chenu, dénoncent déjà une grosse manœuvre visant à limiter le travail des commissions d'enquête parlementaires.
J'ai l'impression qu'il y a une grosse ficelle, on va vérifier tout ça.
Sauf que pour le patron des députés Les Républicains, Damien Abad, c'est déjà tout vu.
Moi je laisse la justice faire son travail et bien que tout le monde laisse les commissions d'enquête faire leur travail. Nous sommes là pour la responsabilité politique et pour tirer les leçons de ces commissions d'enquête. Nous ne sommes pas là pour faire un travail judiciaire en tant que tel.
Et de l'aveu d'un spécialiste de la Constitution, professeur de droit public, même s'il n'est effectivement pas possible d'enquêter exactement sur les mêmes faits, au regard de la jurisprudence et du danger politique que cela représenterait pour le pouvoir, il y a peu de risques dans cette affaire que le travail judiciaire empêche ou limite le travail parlementaire.
Rosalie Lafarge, depuis l'Assemblée, effectivement la gestion de crise fera l'objet de deux commissions d'enquête parlementaires, l'une à l'Assemblée et l'autre au Sénat. Ajoutez à cela le projet du gouvernement de monter sa propre commission d'enquête. Damien Abad, le patron des députés LR, demande le retrait de ce projet gouvernemental. Il y voit un acte de défiance vis-à-vis du Parlement. Toujours dans l'actualité politique, Gilles Legendre reste le patron des députés LREM. Il a été sommé de s'expliquer ce matin devant le groupe pour avoir adressé à Emmanuel Macron son casting pour le prochain gouvernement. Finalement, aucun député marcheur n'a demandé expressément le départ de Gilles Legendre. Il est 18h05 à Paris, 11h05 à Houston, Texas, et les funérailles de George Floyd doivent débuter dans quelques instants. L'événement prend aujourd'hui une dimension planétaire car la mort de ce père de famille noir, étouffé par le genou d'un policier blanc, est devenue le symbole des violences policières à caractère raciste. Nous retrouvons en direct de Houston notre envoyé spécial Grégory Phillips. Bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, les obsèques de George Floyd doivent se dérouler dans l'intimité de la famille.
Oui, 500 invités dans cette église Fountain of Praise. L'hommage du grand public et de la population devant la dépouille de George Floyd, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'est un cadre plus privé et restreint. On a vu arriver, il y a vraiment quelques minutes, grouper les membres de la famille Floyd et leur avocat, et puis aussi...
Grégory Phillips, je crois que nous
de
avons...
De la police
perdu.
De Houston, celui-là même... Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, on vous a retrouvé, Grégory.
Est-ce que
allez-y.
Vous m'entendez ?
Oui, on vous entend, Grégory. Allez-y.
On a vu arriver les personnalités et notamment le chef de la police de Houston, celui-là même qui, il y a quelques jours, intimait à Donald Trump de se taire pour ne pas enflammer la situation. Le chef Art Acevedo est là, dit-il, pour signifier son soutien ainsi que celui de ses officiers. C'est le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, qui, comme il y a quelques jours à Minneapolis, va prononcer l'oraison funèbre. La cérémonie doit durer environ 2 heures. Puis le cercueil doré de Floyd sera emmené en procession, jusqu'au cimetière de Pearland. Sur les derniers kilomètres, ce cercueil sera porté sur une calèche à cheval et la population de Houston est invitée à accompagner Floyd une dernière fois jusqu'à sa dernière demeure.
Merci Grégory Phillips en direct de Houston, Texas. Un peu partout en Occident, la mort de George Floyd a suscité un vaste débat sur le racisme mais aussi sur le passé colonialiste de certains États. À Bristol en Angleterre ce week-end, des manifestants ont arraché de son piédestal la statue d'un bienfaiteur de la ville qui avait fait fortune dans le trafic d'esclaves. La statue dégradée d'Edward Colston a fini dans les eaux du port. En Belgique, la ville d'Anvers a retiré une statue de l'ex-roi des Belges, Léopold II. Au XIXe siècle, l'ancien souverain avait colonisé le Congo, qui fut longtemps sa propriété privée. Ce passé colonialiste passe de plus en plus mal en Belgique. Précisons qu'Anvers est dirigé par le leader nationaliste flamand Bart de Wever. La correspondance à Bruxelles de Jérémy Audouard.
La statue blanche trônait sur un petit coin de pelouse d'un quartier tranquille d'Anvers. Elle a été enlevée officiellement pour être nettoyée. Mais d'après le maire, on ne risque pas de la revoir ici. Elle sera probablement envoyée dans un musée. C'est un geste particulièrement symbolique alors qu'une grogne anti-Léopold II touche la Belgique. Une dizaine de ces statues ont été dégradées depuis une semaine. Les auteurs dénoncent la mort de George Floyd et l'impunité des crimes commis par l'ancien roi des Belges entre 1885 et 1908, alors qu'il avait fait du Congo son territoire personnel. Le mouvement prend de l'ampleur, si bien qu'une pétition signée par 60 000 internautes réclame le déboulonnage de ces statues. L'historien Vincent Dujardin dénonce cette idée. Selon lui, il faut absolument conserver ce patrimoine.
Faire table rase du passé ne constitue pas un bon chemin pour favoriser la cohésion de nos sociétés, car l'amnésie n'a jamais favorisé le mieux-être.
Et c'est d'ailleurs l'option choisie par la région de Bruxelles qui va conserver ses 70 monuments et rues aux références coloniales, mais en y apposant des panneaux explicatifs. C'est dans ce contexte que la ministre francophone de l'Éducation a fait une annonce inédite aujourd'hui. L'histoire de la colonisation sera bientôt enseignée à l'école.
Jérémy Audouard, correspondant à Bruxelles. En France, de nouvelles manifestations à la mémoire de George Floyd sont prévues ce soir dans plusieurs villes. Ces rassemblements devraient être normalement interdits en vertu de la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Mais ils seront finalement tolérés, a expliqué ce matin Christophe Castaner sur BFM. Pour le ministre de l'Intérieur, l'émotion mondiale dépasse les règles juridiques qui s'appliquent. Fin de citation. À Paris, les manifestants ont rendez-vous Place de la République, où nous retrouvons Antoine Maret. Bonsoir.
Bonsoir.
Antoine, y a-t-il déjà du monde pour rendre hommage à George Floyd ?
Oui, les manifestants sont là, déjà quelques centaines, place de la République. Pour le moment, quelques centaines de personnes, toutes les origines, hein, toutes les générations. Des personnalités commencent à arriver, comme Jean-Luc Mélenchon. Les consignes de port du masque sont globalement respectées, un petit peu moins la distanciation sociale, il faut bien le dire. Les gendarmes se font discrets, ils sont présents en nombre, mais à l'extérieur de la place, c'est le service d'ordre de SOS Racisme qui est bien présent avec ses brassards rouges. Il y a également pas mal de pétitions qui circulent ainsi que des banderoles. Le moment fort de ce rassemblement, ce sera d'ici une dizaine de minutes, c'est 8 minutes 46 de silence, 8 minutes 46 pendant lesquelles le 25 mai dernier, un policier a écrasé la gorge de George Floyd. George Floyd, dont les obsèques ont lieu aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique et qui est devenu partout à travers le monde le symbole des violences policières. C'est le cas en France, où la tension monte autour de l'affaire Adama Traoré, décédé lors de son interpellation par les gendarmes à Beaumont-sur-Oise il y a maintenant 4 ans. La famille Traoré appelle d'ailleurs à une autre grande manifestation nationale. Ce sera samedi prochain, également à Paris.
Antoine Marette en direct de la place de la République à Paris avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. Bruno Le Maire a présenté ce matin un vaste plan de soutien à l'industrie aéronautique frappée de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire. Le ministre de l'économie met 15 milliards d'euros sur la table pour aider une filière qui représente 300 000 emplois en France. Sur cette enveloppe, 1,5 milliard reviendra au développement de l'avion vert, un appareil moins gourmand en énergie. Thalès, c'est l'un des principaux acteurs de la filière et son PDG Patrice Ken est prêt à jouer le jeu de l'avion vert en échange d'une aide de l'État.
Demain, avec des cerveaux, si je puis dire, dans l'avion, qui soient beaucoup plus collaboratifs, qui interagissent finalement en temps réel avec les systèmes de contrôle de trafic aérien. Nous sommes d'ailleurs numéro un au monde, nous sommes le seul acteur à maîtriser les deux bouts de la chaîne, le cerveau de l'avion d'un côté et les systèmes de contrôle de trafic aérien de l'autre. Nous allons pouvoir avoir des systèmes qui vont optimiser en temps réel ces fameuses trajectoires d'avion, qui a une conséquence écologique et économique très importante, c'est d'économiser les carburants à hauteur de au moins 10%. Ce sont des économies considérables et ça sert bien l'objectif d'avoir des avions qui vont vers plus de décarbonation. En plus, on travaille sur des horizons de temps qui sont plutôt courts, 2023. Donc c'est sans attendre, si je puis dire, de nouvelles motorisations, voire des avions à hydrogène. Dès 2023, nous allons pouvoir apporter des innovations majeures qui vont servir un avion vert, un avion connecté et un avion numérique. Ces financements publics vont nous permettre d'aller plus vite et plus fort sur ces innovations et sans ce concours public, nous n'aurions pas pu effectivement avancer aussi vite que prévu et accroître, asseoir notre leadership, notre excellence technologique par rapport à nos grands concurrents américain et chinois.
Patrice Ken, PDG de Thalès, répondait à Hakim Kasmi. Après l'avion vert, les énergies renouvelables, ces énergies seront-elles le moteur de la relance économique? C'est en tout cas le souhait de leur syndicat, le CER, qui a défendu ce matin une accélération de la transition écologique. La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit d'ailleurs le développement de ces énergies renouvelables. Le CER s'appuie sur cette feuille de route officielle pour plaider sa cause. Les explications de Véronique Robert.
Des dizaines de milliers d'emplois créés d'ici 2028 dans le solaire ou l'éolien, c'est le calcul de Jean-Louis Ball, le président du syndicat des énergies renouvelables.
On va passer de 166 000 emplois actuellement dans les énergies renouvelables à 264 000 en 2028, donc en gros 100 000 emplois créés. Donc il y a un réel impact du développement des renouvelables sur la relance économique que nous attendons tous.
La part des renouvelables dans notre mix énergétique devrait atteindre 32% en 2028 contre 18% en 2016. Mais Jean-Louis Ball y voit un frein, des délais trop longs pour instruire les dossiers.
Ça demande de raccourcir toutes les périodes d'instruction des projets qui sont de l'ordre de 10 ans dans l'éolien en mer, de 7 ans sur l'éolien terrestre, de 5 ans sur le photovoltaïque. Nous sommes les champions d'Europe pour la durée d'instruction des projets. Et donc le syndicat propose de diminuer ces délais d'instruction et les délais de recours que des citoyens pourraient porter contre ces projets. Mais nous ne sommes pas opposés aux opposants. Maintenant, il faut que les durées d'instruction de ces recours ne prennent pas 2, 3 ou 4 ans, comme c'est le cas actuellement.
Autre atout, les énergies renouvelables sont de moins en moins chères en comparaison avec les autres sources d'énergie à base de combustibles fossiles.
Véronique Robérotte, merci. Le syndicat des énergies renouvelables plaide aussi pour une relance de la fiscalité carbone dont la hausse avait été abandonnée lors de la crise des Gilets jaunes. Le CER demande que les recettes de cette fiscalité soient redistribuées aux ménages les plus modestes pour les accompagner dans la transition énergétique. Combien y a-t-il de riches en France? Comment à évaluer leur richesse? Qui sont-ils? Pour la première fois, un rapport dresse leur portrait financier et social, un rapport établi par l'Observatoire des inégalités. Le document pointe l'inexistence jusqu'à présent d'indicateurs précis de la richesse dans notre pays. Si les travaux et les statistiques sont multiples sur la pauvreté, il n'en est pas de même sur la richesse. Exemple, à partir de quel revenu peut-on dire qu'on est riche? Pour l'Observatoire des inégalités, c'est précis. Les décisions sont importantes pour bâtir des politiques fiscales plus justes. Anne-Laure Choin s'est procuré ce rapport.
L'Observatoire des inégalités était jusqu'alors le seul organisme à établir un seuil de richesse, à savoir le double du niveau de vie médian, 3 470 euros par mois après impôt pour une personne seule, soit 8,2% de la population française. Premier enseignement de ce rapport, il y aurait donc aujourd'hui autant de personnes au-dessus de ce seuil de richesse qu'en dessous du seuil de pauvreté. Deuxième enseignement, alors qu'il était très difficile d'évaluer l'évolution du revenu des riches, ce rapport nous indique que ce revenu a augmenté. En 20 ans, les riches se sont enrichis de 8 500 euros par an en moyenne, par rapport toujours au niveau de vie médian de la population. Quant aux très riches français, les 1% dont le niveau de vie est supérieur à 6 650 euros par mois par personne après impôt, ils figurent parmi les plus riches d'Europe. Anne Brunner, directrice de l'Observatoire des inégalités.
Ce montant, eh bien, il est plus élevé qu'en Norvège, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. En fait, il est plus élevé que dans tous les pays d'Europe en dehors de la Suisse. Ça invalide en passant la thèse d'une fuite des hauts revenus sous la pression fiscale. Et puis, ça signifie aussi que notre pays, malgré l'état social très redistributif, est particulièrement inégalitaire par le haut de la société, par les très hauts revenus, les très hauts salaires, encore plus si on le regardait avant impôt.
Ni la crise, ni la fiscalité française n'ont par ailleurs freiné la progression des très grandes fortunes, celles des 500 familles. Construit à l'aide des données de l'INSEE, inspiré par les travaux d'économistes comme Thomas Piketty, ce rapport enfin pointe la difficulté d'accéder aux données concernant les plus hauts patrimoines et revenus.
Anne-Laure Choin, merci. Un autre rapport dans l'actualité aujourd'hui, celui de la CNIL. La Commission nationale informatique et liberté a enregistré 27% de plaintes supplémentaires en 2019, soit plus de 14 000 plaintes. L'essentiel concerne la vidéosurveillance. Dans le détail, 11% des dossiers portent sur la surveillance des salariés sur leur lieu de travail ou pendant leur temps de travail. Par ailleurs, la publication des données personnelles sur Internet concentre près d'un tiers des plaintes. Fiona Mogadam.
La population est de plus en plus consciente de ses droits dans l'univers numérique. Cela fait 2 ans maintenant que le RGPD, le règlement sur la protection des données, a été mis en place. Et chaque année, ses effets s'en font un peu plus ressentir car les plaintes auprès de la CNIL sont en hausse constante. La population exerce donc de plus en plus souvent ses droits. La CNIL souligne aussi une coopération plus importante au niveau européen. Au total, 79 décisions ont été adoptées en concertation avec les autres pays européens l'an dernier. L'idée, c'est d'harmoniser les règles afin que tous les citoyens européens bénéficient du même niveau de protection des données dans tous les pays membres. Autre point notable dans ce rapport de la CNIL, son rôle dans la crise du coronavirus. La commission a été sollicitée à de nombreuses reprises, des questions sur l'utilisation de caméras pour détecter les personnes qui portaient ou non des masques, la possibilité de recenser les personnes avec qui des malades du coronavirus ont été en contact, le télétravail ou encore sur l'application Stop Covid, des dispositifs qui, lorsqu'ils sont installés, continuent d'être contrôlés par la CNIL. C'est notamment le cas depuis quelques jours pour l'application Stop Covid.
Fiona Mogadam, merci. Et justement, Stop Covid, on en reparle juste après ce journal avec les invités d'Emmanuel Laurentin dans le temps du débat. La mort du président du Burundi, Pierre Nkurunziza, a succombé hier à une crise cardiaque. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le gouvernement burundais. Pierre Nkurunziza dirigeait le Burundi, l'un des pays les plus pauvres au monde depuis 2005. On termine ce journal avec la météo. Demain, un temps mitigé, toujours des nuages et de la pluie sur une large moitié est. À l'ouest, le ciel sera plus variable avec de belles éclaircies. Les températures minimales seront comprises entre 6 et 15 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales oscilleront entre 15 et 24 degrés de la Bretagne aux régions sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.